Bon, ben bonsoir tout le monde. Merci d'être encore une fois nombreux ce soir. Alors, ce soir, c'est un grand jour. C'est le quatrième de nos quatre cafés historiques de la première saison. Donc, c'est un événement historique auquel vous assistez ce soir. Alors, l'équipe d'Histoire engagée et de moi-même, les services historiques et ses associés, on peut déjà vous dire qu'on est en train de cogiter sur l'an prochain. Donc, il y aura une suite à tout ça. Donc, on est très, très content du succès de cette année. Alors, pour notre dernière de la saison, finalement, alors, on a un conférencier ce soir de marque. Alors, Jocelyn Gadebois, qui est un doctorant en ethnologie à l'Université Laval. Jocelyn qui s'est fait remarquer en 2009 avec la sortie de son livre sur son mémoire de maîtrise qui s'appelait « Le nain de jardin, objet en éclat ». Alors, Jocelyn a le don d'attirer les sujets originaux. Donc, ce soir, il va nous parler finalement de la dimension historique de ses recherches doctorales, finalement, sur la loterie. Donc, sans plus tarder, Jocelyn Gadebois.
Merci. D'entrée de jeu, je vous demanderais, est-ce que ça vous dérange si j'appelle les jeux de hasard et d'argent les JHA? Parce que moi, j'ai pris vraiment l'habitude d'appeler ça les JHA, fait que posez-vous pas de questions, j'appelle ça comme ça. D'entrée de jeu aussi, je dois dire que je suis un imposteur, parce que je ne suis pas un historien. Puis là, je vais vous parler de l'histoire, de la préhistoire de l'Auto-Québec. Moi, je suis un anthropologue. En anthropologie, on étudie les sociétés du point de vue de l'intérieur. Dans le fond, ça nous permet d'essayer de traduire un univers de sens sans trahir. Dans le fond, le but, on essaye d'attaquer les préjugés. Puis pour me choisir un sujet de thèse, ben j'ai travaillé sur mes propres préjugés, puis je me suis dit, bon, parmi les préjugés, lesquels seraient intéressants à approfondir? Puis, pour payer mes études de premier cycle, j'ai travaillé au J.A. Giguère-Tabac, juste à côté, où je vendais de la loterie. Puis, je comprenais pas, en fait, pourquoi les gens jouaient au loto 649. Moi, j'étais plutôt pauvre dans ce temps-là. Je me disais, mais pourquoi ils gaspillent leur argent comme ça? Donnez-moi-le, cet argent-là, ça n'a pas de bon sens. Parce que, en fait, je comprenais pas qu'on a juste, dans le fond, une chance sur 14 millions de gagner, puis qu'on essaye quand même, puis les chances de faire fructifier, même pas de faire fructifier, de rentrer dans son argent, sont une chance sur 32,3. Fait que c'est vraiment désavantageux pour le joueur, là, je comprenais absolument pas. Fait que j'ai décidé d'approfondir ça. Dans mes recherches à la bibliothèque, il y a plusieurs théories, dans le fond, qui essaient d'expliquer le comportement étrange des joueurs. Puis, la première qui a été créée, par exemple, c'est la psychanalyse. Ils vont dire que si les joueurs aiment se désargenter comme ça, c'est parce qu'ils prennent plaisir à la souffrance, donc c'est des masochistes. Je trouvais ça plutôt loufoque. La théorie, dans le fond, qui est le plus en vogue au Québec, c'est la théorie cognitivo-comportementaliste, qui dit, dans le fond, qu'ils s'intéressent plus aux joueurs compulsifs, là, aux joueurs pathologiques. Ils vont dire que la personne s'enfonce dans des fausses croyances, dans le fond, que la personne est conditionnée, puis c'est pour ça qu'elle continue à jouer. Je me dis, OK, ça peut peut-être expliquer, dans le fond, certains comportements pathologiques, mais les joueurs que moi j'ai servi au JSJR, est-ce que ça me dit quelque chose sur ce comportement-là? J'étais pas sûr. En fait, il y avait plusieurs théories comme ça. La plus comique, selon moi, que j'ai trouvée, c'est un économiste très connu, Veblen, qui dit en fait que plus quelque chose est inutile dans la société, plus elle devient prestigieuse parce qu'elle est ostentatoire. Donc, se désargenter comme ça, c'est vraiment investir dans l'inutile. Ça devient quelque chose de très prestigieux, d'où l'idée qu'on crée une société de loisirs et tout ça. Mais bon, je trouvais que dans toutes ces théories-là, il manquait le point de vue du joueur. Moi, j'ai une préoccupation d'anthropologue, puis je me disais, pourquoi il n'y a personne qui est allé leur demander directement aux joueurs pourquoi ils jouent? Fait que j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai pris une enregistreuse, puis je suis allé dans les centres commerciaux de la ville de Québec. Puis je leur ai demandé, pourquoi vous jouez? C'était simple, j'ai interrogé comme ça 200 personnes. C'est mon corpus, dans le fond, est quatre fois plus gros. Je me vante un peu. Donc, mon corpus, il est quatre fois plus gros qu'une étude comparable qui a été faite en Nouvelle-Zélande. La seule étude comparable qui a été faite en Nouvelle-Zélande qui avait un corpus de 50 personnes. Donc, je pense que j'ai réussi à toucher quelque chose. Surtout que ce qui m'ont sorti, les joueurs, c'est vraiment quelque chose d'inusité qu'il n'y avait pas dans la littérature à la bibliothèque. Puis, en fait, les gens m'ont dit que c'est pas tant un jeu d'hasard. Les JHA, là, c'est pas tant un jeu d'argent. C'est pas vraiment l'argent. On joue pas vraiment de l'argent, on joue de la monnaie. Puis, quand on s'intéresse, dans le fond, il y a vraiment une grosse différence entre l'argent puis la monnaie. C'est pas juste une question, il y en a un que c'est papier, l'autre c'est pas vraiment ça. Dans le fond, l'argent, c'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question de consommation, tandis que la monnaie, c'est beaucoup plus une question de participation, c'est beaucoup plus une question de valeur symbolique qu'on attache ou qui nous permettent d'échanger entre les individus. Fait qu'on sort un peu de l'économie, qu'on rentre dans la monnaie, hein, le petit change, là, dans le fond, quand il y a une quête, mais c'est ça qu'on donne, dans le fond, on veut participer, c'est symbolique, là, dans le fond, tout le temps, le petit change, et dans le fond... ça veut dire, dans le fond, que les jeux d'hasard et d'argent, on est moins dans une logique de consommation. Là, on n'est pas dans. Les gens ont toujours pensé ça comme ça, mais j'ose sortir un peu de cette interprétation-là pour arriver avec une interprétation qui est plus sur le système de croyance. Parce que ce qui était commun, dans le fond, dans tous les discours, c'est que c'est un jeu de confiance. Okay? Fait que, étymologiquement, confiance, ça veut dire croire ensemble. Puis, en fait, ça faisait vraiment le tour, dans le fond, de toutes mes entrevues que j'ai faites. Tout le monde me parlait de confiance, mais pourtant, quand on marque confiance dans le centre de documentation de l'Auto-Québec, il n'y a rien qui sort. Fait que c'est mon pompon, là, dans le fond, la notion de confiance, puis je la développe. En fait, mon directeur français vous dirait que je m'intéresse au passage entre la croyance et la créance, mais bon, c'est très chic dit comme ça. Et donc, c'est ça. Quand je parle de confiance, je parle de confiance à plusieurs niveaux. Je parle évidemment de confiance en soi, de l'idée de croire en soi, de croire qu'on peut être la personne sur le 14 millions qui a défié les statistiques. C'est oser croire, dans le fond, son individualité. Dans le fond, les personnes m'ont dit qu'eux, s'ils gagneraient, s'ils devenaient multimillionnaires, ben, ils sauraient quoi faire avec leur argent parce qu'ils ne gaspilleraient pas. Dans le fond, ils sauraient comment être, comment s'épanouir pleinement avec cet argent-là. La notion de confiance aussi pour la confiance aux autres, la confiance de croire aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui jouent en groupe. C'est important de bien avoir confiance à son partenaire quand on joue, là, parce qu'il peut se sauver avec avec le magot s'il gagne. C'est très important. Mais aussi, les personnes m'ont dit qu'ils ne gagneraient jamais. Il n'y a personne qui m'a dit qu'ils gagneraient seul. Là, l'idée que c'est de s'enrichir, c'est pas tout à fait ça. Les gens gagneraient, ils partageraient. Puis dans le fond, ils feraient vraiment profiter leur réseau. Le réseau de confiance. Puis là, tout le monde me dit « OK, j'en donnerai à telle et telle personne, mais j'en donnerai surtout pas à telle autre personne, la quatrième cousine qui vient vraiment me déranger pour avoir un peu d'argent. Elle, je la sors de mon réseau de confiance. » C'est important aussi la confiance avec les commis, parce que il y a eu des cas où les commis ont volé les billets de loterie. Le cas le plus fameux, c'est le cas Bob Edmonds en Ontario. Puis ça a créé vraiment une crise de confiance à l'échelle nationale, à l'échelle du Canada, parce que des commis avaient réussi à trouver un moyen pour voler les joueurs. Fait que c'est très important. Finalement, le troisième aspect, c'est la confiance à la magie. Ça, ça a vraiment été... le monde croit beaucoup à la magie, ça m'a vraiment étonné. Parce que dans la dimension de la confiance, il y a une dimension de croire à la chance, de croire que la chance, ça s'attire. Il y a une dimension du magnétisme. Bon, il y a beaucoup de femmes qui ont lu Le Secret, qui me parlaient du secret, que c'était très important, que si on y croit, si on a suffisamment confiance, bon, on finit par attirer le gros lot. Mais c'est quand même une croyance qui est revenue très souvent. Puis finalement, la chose la plus importante, c'est d'avoir confiance en un être, en une autorité suprême. Là, ici, ça peut avoir l'air de parler de Dieu, mais les entrevues que j'ai faites, ben, ça ne va pas aussi loin que ça. C'est pas, ça ne se prêtait pas bien à l'intimité, à cette profondeur-là. Dans le fond, quand on parle d'être suprême dans le jeu, ben, c'est seulement le maître du jeu. Le maître du jeu, il a littéralement le pouvoir de vie ou de mort sur les joueurs. Il faut lui accorder une grande confiance. Il faut respecter au pied à la lettre les règles. Ce qui est intéressant dans les JHA, c'est que le maître du jeu, ben, c'est l'État. Fait qu'on entre vraiment dans un jeu qui est plus important, dans le fond, qu'une partie chez soi, même si c'est souvent plus le fun d'ouvrir un jeu de société. Ben là, on est dans un jeu étatisé. Et c'est cette partie-là que je veux vous parler aujourd'hui dans le cadre de ma conférence, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le jeu étatisé, ça fait pas très longtemps qu'on joue. Le Loto 649, le premier tirage qui a eu lieu, c'est... juste pour être sûr. Oui, parfait. C'est le 12 juin 1982, premier tirage de l'Auto 649. Le premier tirage de l'Auto-Québec, c'est 14 mars 1970. Donc, ça a une quarantaine d'années. C'est pas très vieux. Puis ce qui est surtout intéressant, c'est de constater, c'est que, il n'y a pas très longtemps, c'était interdit de jouer. C'était un crime. En fait, les jeux sont rentrés dans le code criminel canadien dès le début de son édiction en 1892, puis c'était interdit avant ça. Donc, ce qui est intéressant de se demander, c'est comment ça que les Canadiens en sont venus à faire confiance au GHE, puis en sont venus à faire confiance à l'État. Comment que c'est passé, dans le fond, d'un vice à un crime, à aujourd'hui à un loisir très accepté qu'on peut acheter dans un dépanneur, qu'on peut acheter dans les centres commerciaux. Fait que c'est la question que je me suis posée pour la conférence ici, mais surtout dans ma thèse. C'est ça. Dans mes recherches, dans le fond, j'ai vraiment trouvé peu d'analyses historiques sur cette question-là, sur ce passage de vice à loisir dans la société canadienne. Il y en a beaucoup, par exemple, sur ce passage-là aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, mais au Canada, il y en a peu. Là, je suis désolé, la partie qui s'en vient va être un petit peu plus plate, mais c'est pour répondre à une question que va me poser sans doute Mélissa, parce qu'elle est historienne. Elle va me demander, mais où as-tu pris tes informations? Fait que je vais lui répondre tout de suite. Fait que, dans le fond, la première étude qui a été faite sur les jeux d'hasard et d'argent, c'est l'Auto-Québec qui l'a fait. C'est le centre de communication qui est dirigé par Michel Labrosse. Je ne sais pas s'il est connu ou pas, mais bon, c'est lui qui l'a fait. C'est intéressant qu'est-ce qu'il a fait quand même, parce qu'il a vraiment marqué les jalons pour comprendre c'est quoi l'étude du jeu au Canada. C'est très anecdotique en même temps. Puis faut en prendre, puis en laisser aussi, parce que c'est un document. Le document qu'ils ont réalisé, c'est beaucoup pour affirmer la mission de l'Auto-Québec. Donc, ils sont tout le temps là en train de dire « Oh, regardez, les Québécois ont toujours voulu jouer, mais il y a les méchants politiciens qui ont voulu les empêcher. » Donc, c'est plutôt particulier. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont vraiment mis les éléments historiques au... Dans le fond, la première recherche en milieu universitaire qui s'est passée, c'est le mémoire de maîtrise de Judith Osborne en 1989. Donc, c'est quand même assez récent. En fait, elle, c'est en droit qu'elle a fait son mémoire de maîtrise, puis elle s'est intéressée, dans le fond, au débat qui entoure le statut légal des jeux. Selon elle, l'étatisation des jeux s'est faite de manière très soudaine. C'est un peu précipité. En fait, pour elle, les jeux d'hasard et d'argent, c'est un lapin, dans le fond, sorti du chapeau de Pierre-Éliott Trudeau, là, qui est arrivé tout d'un coup, puis bon, ben, on légalise les jeux. Donc, pour elle, elle présente ça vraiment comme ça. Elle dit que, dans le fond, ça répondait aux volontés de la province de Québec, puis que c'était pas vraiment rationalisé. Là. C'était pas vraiment rationnel comme politique. La deuxième recherche, la thèse en criminologie de Colin Campbell, va un peu dans la même direction. Là. Pour lui, là, c'est vraiment... on n'arrive pas à comprendre ce passage-là de vice à loisir. Et donc... mais lui, en fait, Colin Campbell, il va se pencher plus sur... Il va se pencher plus sur les exceptions de la loi, parce que c'est pas tous les JHA qui vont être exemptés, qui vont être prohibés. Il y a certains JHA, comme les courses de chevaux, vont être exemptés. Il va expliquer ça dans sa thèse. La première personne qui va vraiment réfléchir à ce passage-là de vice à loisir, c'est Suzanne Morton, en 2003. Elle a dit, dans le fond, que cette loi-là, là, elle répondait, dans le fond, aux bouleversements moraux qui se passaient notamment dans les années 60. Fait qu'elle s'est penchée, dans le fond, dans la période historique de 1919 à 1969 pour voir à quel point que le Canada s'est départi de ses valeurs victoriennes. Puis ça en est venu, dans le fond, à faire passer le jeu de crime à une pratique tout à fait normale. Finalement, la recherche qui a hérité un peu de ce livre-là, c'est le mémoire de maîtrise de Magali Brodeur. Elle a fait son mémoire de maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke. Puis, elle a gagné le prix du FQRSC pour le meilleur mémoire de maîtrise. Il va être publié, il va sortir le 10 mai 2011, en avant-première, donc au PUC. Il va sortir sous le titre « Vice et corruption à Montréal ». Donc, si vous voulez vraiment savoir plus, comme je ne publie pas un livre sur la loterie, si vous voulez vraiment savoir plus, c'est vraiment le livre de Magali Brodeur qui va sortir en 2011, qui va vraiment faire le tour de cette question-là. Donc, ça va bien, Mélissa? Oui? Je vais... Non, c'est la loi C-195 de 1969. Qui est rentré en vigueur le 1er janvier 1970. OK, fait que là, OK. Fait que, enfin, moi, la conférence que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment inspiré de ces ouvrages-là. Évidemment, bon, pour la nourrir un peu, je suis allé me chercher d'autres informations, notamment sur l'histoire du code civil, pas du code civil, du code criminel canadien. Je suis allé aussi chercher des questions sur les personnages importants, dans le fond, que je vais vous parler. Puis j'ai aussi été chercher des informations sur l'ethnologie des croisades de tempérance, qui nous en apprend beaucoup sur la vision de l'Église sur le jeu. Ça va être, mais en fait, juste vous rappeler aussi que moi, je ne suis pas historien. C'est très important, dans le fond, dans la regard de ce que je vais vous dire, parce que ce n'est pas la même chose de vous faire raconter l'histoire par un ethnologue que par un historien. Moi, je me suis, par exemple, beaucoup, ça va être complètement exotique pour les historiens. Moi, je me suis beaucoup intéressé. En fait, je vais vous voir le récit que je vous ai construit. Je me suis beaucoup inspiré, je dois dire, des joutes de poker pour parler justement de cette notion de confiance-là. Donc, ça risque d'être particulier, mais je vais vous épargner la métaphore filée des joutes de poker. Ça risque d'être de très mauvais goût si je fais ça. Je sais aussi que les historiens aiment qu'on parle du cadre temporel, fait que moi je vais m'intéresser de 1882 à 1970. Je m'improvise historien là, je m'impressionne moi-même. Et donc pourquoi 1882? Symboliquement, c'est 100 ans avant le premier tirage de du Loto 649. Je trouvais ça le fun, mais c'est surtout qu'en 1892 arrive la loi. Fait que ça me permet de retourner 10 ans, ça me permet vraiment bien de la positionner. Puis à la fin, comment c'est devenu décriminalisé. Je m'étalerai pas sur l'Auto-Québec aujourd'hui. On connaît tout passablement bien l'histoire de ça. De toute façon, je suis pas rendu là dans ma thèse. Fait que j'aurais été bien mal. OK, je commence par une question quiz. En 1882, il y a le premier projet de loterie nationale qui tombe à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un sait qui l'a déposé? Un petit indice, c'est un membre de l'Église catholique. Et ça, c'est vraiment particulier. Que ça soit l'Église catholique, la religion chrétienne, parce qu'elle est censée avoir en hostilité de principe les jeux d'hasard et d'argent, parce que la loterie, pour eux, ça promeut le gain facile, le mode de vie hédoniste, le luxe, puis ça discrédite par la même occasion le travail, parce que, bon, on gagne l'argent spontanément, ça va même jusqu'à discréditer la famille, parce que là, on travaille pas pour la famille, on attend de recevoir un gain. Fait que c'est pas très catholique comme principe, les jeux d'hasard et d'argent. Pour les catholiques, l'argent doit être lié au mérite, donc au travail. Faut travailler pour avoir son argent. En plus, quand on travaille pas, ben le dimanche, là, ben il faut prier, puis il faut se reposer pour pouvoir être plus efficace, pour mieux travailler. Donc, donc les JHA sont pas vraiment, incarnent pas, disons, cette philosophie de vie-là. C'est plutôt motivé pour eux par la cupidité, par la paresse. En plus, pour couronner le tout, ben ça réveille dans le fond plein de superstitions chez les joueurs. Donc, c'est vraiment une affaire à éviter. Je pourrais dire que ma notion de confiance, ce qui est intéressant, c'est que la confiance puis la foi, c'est pas la même chose. La foi, c'est très passif. On a la foi. Elle nous a été portée un peu par une c'est une création divine, dans le fond, qui a été nous porter ça dans notre être. Tandis que la confiance, on la fait. On fait confiance. C'est nous qui la construit, donc c'est une création humaine. Donc, il y a vraiment une opposition entre création humaine et création divine. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans deux univers complètement séparés. Cependant, c'est vraiment étrange que les catholiques aient proposé une loterie nationale. Mais enfin, il faut dire que la religion catholique a toujours eu un rapport très confus avec les jeux d'hasard et d'argent, voire avec l'argent tout court, hein, parce qu'on pense aux indulgences là, qui ont mis les feux aux poudres, puis qui ont motivé, dans le fond, les luthériens. Là. Mais en fait, pour les catholiques, si ça sert l'œuvre de Dieu, ça va, t'sais. C'est quand même correct. Donc, dans le même esprit, il y a plusieurs églises qui vont organiser des loteries, des bazars, des rafles. C'est ça, sans problème. Puis aujourd'hui, il y a les bingos, hein, parce qu'on sait la devise de l'Église catholique, hein, « Croyez en Dieu, N32 ». Donc, c'est ça. Fait qu'en 1982, est-ce que oui? De la personne qui a proposé? Oui, c'est le curé Labelle. Oui, c'est le curé Labelle qui a proposé le premier projet de loterie nationale. Pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est le curé de la paroisse de Saint-Jérôme, qui est dans le diocèse de Montréal à l'époque. Le curé Labelle, il était vraiment nourri par la conviction que le salut de la race canadienne, française, catholique, là, c'est son expression, dans le fond, passait par l'occupation du territoire. Pour stopper l'exil en Nouvelle-Angleterre, parce que c'était vraiment sa cause, il a travaillé en Nouvelle-Angleterre, pour lui, il fallait vraiment, on était vraiment en guerre dans cette époque-là contre le protestantisme. Ça animait, dans le fond, toutes ces actions. Pour mener cette guerre-là, il fallait absolument coloniser le nord de Montréal, ce qui allait devenir, en fond, aujourd'hui, les Laurentides. Donc, pour ce faire, il a créé la Société de colonisation du diocèse de Montréal. Là, je vais prendre une autre abréviation, la SCDM. Donc, vous avez deux à retenir, ça va bien jusqu'à date, mais j'en ai pas d'autres. Donc, il a créé la SCDM en 1879. Puis, c'est un peu étrange parce qu'il a créé par la même occasion une sorte de marketing qu'on connaît bien aujourd'hui, parce que c'était « Devenez membre de la SCDM et obtenez des rabais sur vos prochains services religieux ». Donc, mais ça a plus ou moins bien fonctionné, son affaire, parce que c'est un flop financier, disons-le comme ça. Là, ça ne marchait pas. Et de là est partie l'idée de créer une loterie 3 ans plus tard pour réussir à avoir son œuvre. Il l'appelait la loterie de la colonisation. Donc c'est ça. Il a joué, vu qu'il y avait plusieurs amis conservateurs, tout ça. Bon, mais il a joué de ses influences. Puis ça a passé comme une lettre à la poste dans le fond à l'Assemblée nationale du Québec. En fait, à cette époque-là, c'était une très bonne idée de créer une loterie parce que il y avait plusieurs loteries étrangères en sol québécois. On pense notamment à la loterie du Mexique. Mais c'est surtout qu'il y avait, plusieurs loteries qui étaient des arnaques complètement. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de loi qui gérait ces loteries-là. Il y avait notamment la loterie de la Louisiane qui était très réputée pour ne pas payer. Puis aussi, ils ne pouvaient pas assurer que les billets étaient des vrais. Donc, il y avait peut-être des vraies loteries, mais pas des vrais billets. Donc, c'était l'anarchie complètement. Donc, c'était une bonne idée d'arriver avec une loterie étatisée, autorisée par la législation, parce que, ça permettait de mettre un certain contrôle, puis surtout, ça permettait de conserver les capitaux à l'intérieur de la province. Mais en même temps, la loterie de Labelle était illégale. Parce que, non pas que c'était complètement prohibé, parce que la loi de 1869, j'ai retenu une date, la loi de 1869, dans le fond, ça permettait les loteries qui avaient une visée de développement social et économique, donc ça allait bien, mais il interdisait les loteries qui avaient qu'on versait des lots en argent. Puis c'était très implicite là, dans la loterie de Labelle là, que, il offrait des lots. Bien, les lots, il y avait des acheteurs, dans le fond, qui leur donnaient de l'argent. C'était, dans le fond, une manière déguisée d'avoir une loterie qui donnait de l'argent. Donc, ça ne marchait pas. Mais il y avait en même temps une faille dans la loi de 1869. C'était que c'était les provinces qui avaient l'autorité de reconnaître ou non les loteries. Hein? Fait que ça passait encore. Mais en dépit de cette faille, ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est pas le gouvernement fédéral qui a refusé la loterie, c'est le Conseil législatif du Québec. Puis ça a été refusé en 82, il a représenté son projet en 83, même chose, puis en 84, même chose encore. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que toutes ces années-là, c'est des conservateurs qui siègent aussi sur le Conseil législatif du Québec. Ça, c'est vraiment particulier parce que c'est des conservateurs qui battent des projets de conservateurs. C'est à n'y rien comprendre. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que, pourquoi ne pas voir ça comme une joute de confiance? Fait que là, on est vraiment dans un match de confiance. Quand on regarde, dans le fond, pourquoi que le plan a fait chou blanc, c'est à cause, notamment et surtout, de l'influence de Mgr Louis-François Richer Laflèche, qui est évêque de Trois-Rivières. On va l'appeler Monseigneur Laflèche, si ça ne vous dérange pas. Donc, lui, il a tout fait, il a déployé tous les efforts pour que ça soit refusé, la loterie. En fait, Monseigneur Laflèche, c'est un ultramontain, puis c'est un ami de l'ancien évêque de Montréal, du diocèse de Montréal, Monseigneur Bourget, qui a donné le poste au curé Labelle. Donc, c'est pas censé être des ennemis. Monseigneur Laflèche puis Monseigneur Bourget sont vraiment en guerre contre l'archevêque. L'archevêque, c'est Elzéar Alexandre Taschereau. Donc, l'archevêque, il trouve trop libéral. Mais bon, c'est des ultramontains, fait qu'il trouve tout le monde trop libéral. Mais bon, toujours est-il que Monseigneur Bourget, lui, il y a vraiment une guerre là, à finir là, contre l'archevêque. Puis c'est, il refuse l'implantation de l'UDM, de l'Université de Montréal, parce que c'est un peu une faction de l'Université Laval. Puis l'Université Laval, à cette époque-là, ben, c'est une université super libérale. Puis pour un ultramontain, là, d'arriver avec une faction libérale, ça ne marche pas. Il refuse. Puis bon, OK, la guerre va prendre là, sur l'Université de Montréal à un point tel que Rome va être obligé d'intervenir. Puis Rome va prendre position pour l'archevêque et non pour Monsieur Bourget et Monseigneur Bourget. Puis il va l'obliger, Rome va obliger va obliger Monseigneur Bourget à prendre sa retraite en 1876. Ça c'est vraiment une humiliation là, pour un évêque. Donc la personne qui va le remplacer c'est un autre ultramontain mais qui est plus modéré. Permettez-moi l'oxymore. C'est Édouard Charles Fabre donc, qui remplace. Puis bon, ça va pas déjà très bien avec Monseigneur Laflèche parce que bon, il remplace son ami. Puis Monseigneur Fabre s'était objecté dans le fond au programme catholique. Le programme catholique, c'était l'idée de soudre l'État puis l'Église. Ça reste encore d'actualité. Monseigneur Fabre, il avait rejeté le programme-là, fait qu'il ne s'aimait déjà pas d'avance. Mais là, en plus, en 1878, il a décidé que bon, ben, l'Université de Montréal, ça allait. Lui, il l'acceptait, non pas qu'il l'acceptait, mais il refusait de résister davantage à l'implantation de l'Université de Montréal dans son diocèse. Fait que ça marchait pas. Fait que la loterie, ben, Monseigneur Laflèche, il a bien vu que c'est une manière détournée parce que les coffres du diocèse de Montréal était pris à payer pour cette université-là. Fait qu'il fallait qu'il trouve des moyens détournés pour avoir d'autres sources de financement. Donc, Monseigneur Laflèche en a profité pour un peu faire vengeance à son ami Bourget. Puis bon, il y avait aussi que Monseigneur Laflèche ne pouvait pas accepter une idée de loterie. Dans le fond, ça allait contre les valeurs de l'Église. Puis il faut dire que Monseigneur Laflèche en a profité un peu parce que la colonisation, ça ne plaisait vraiment pas à tout le monde, notamment aux compagnies forestières qui n'aimaient pas l'idée, dans le fond, de voir leurs terres colonisées par des personnes. Donc il a vraiment réussi ces trois projets de loi-là à les faire tomber. Mais la Belle, entêtée un peu, légèrement, va la faire quand même en 1984. Ça va lui faire perdre beaucoup de ses alliés politiques. Mais il va dire, et je cite, « Ce moyen ne plaît pas à tout le monde, il est vrai, mais on ne pourra pas contester le but noble, que le but est noble et louable, et qu'au moins, on doit me laisser le bénéfice du doute. » En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « Faites-moi confiance. » Enfin, on ne sait pas, l'histoire dit qu'on n'aurait peut-être pas dû lui donner autant de confiance parce que son projet a aussi été un peu un fiasco. Il avait pas l'air d'avoir des grands talents en administration. Pauvre M. Labelle avait des bonnes idées de marketing. Mais en fait, la loterie va juste réussir à acheter deux cloches pour donc, c'était tous ces efforts-là pour ça. C'était un peu décevant. Mais deux cloches pour les Laurentides. Le plus gros succès de la Belle, c'est d'avoir eu, ben, c'est un succès d'estime auprès de l'archevêque. Donc ça n'a vraiment pas plu aux ultramontains là, que Monseigneur Laflèche, que Monseigneur Taschereau dise devant tout le monde, bon, mais c'est une cause honnête et l'homme aussi est honnête. Dans le fond, on remet vraiment en question l'honnêteté de la Belle. La Belle, il va perdre, bon, ça n'aide pas que l'archevêque libéral un peu présente son accord à la Belle. Donc, mais Monseigneur Fabre puis le curé Labelle vont commencer vraiment à se distancer l'un de l'autre parce que Monseigneur Fabre va vraiment comprendre que la SCDM, là, c'est pas un projet un peu bon enfant, là, c'est un projet de création d'un nouveau diocèse, le diocèse, dans le fond, de Saint-Jérôme, un diocèse qui va aller arracher une section du diocèse de Montréal. Donc, là, il va commencer à réaliser ça. Il y a vraiment une rupture de confiance qui s'installe. Mais la rupture de confiance définitive, c'est vraiment en 1887 qui se passe. C'est quand Labelle accepte le poste de sous-commissionnaire ou de sous-ministre de la colonisation du gouvernement libéral d'Honoré Mercier. Donc, pour les ultramontains puis pour les conservateurs, Labelle, c'est un traître, un opportuniste, un transfuge. En revanche, ce qui est drôle, c'est que pour, ben drôle, je sais pas, mais pour les souverainistes, ça va vraiment être devenir un héros, dans le fond, qui a viré son capot de bord, puis qui est devenu, Mais dans le fond, quand on regarde ça, Labell était vraiment juste, il était vraiment obsédé, dans le fond, par l'idée de la colonisation pour faire la guerre aux protestantistes. Donc, c'était pas vraiment une idée politique, c'était vraiment une mission qui s'est donnée. Mais cette mission-là, dans le fond, va vraiment être mal vue, par, notamment par les ultramontains, puis ils vont tout faire pour faire perdre l'emploi de sous-commissionnaire au curé Labell. Puis ils vont aller jusqu'à Rome, là, à se plaindre du comportement du curé Labell à Rome. Puis Rome va encore intervenir, vont envoyer une lettre au curé Labell l'exigeant d'abandonner sa mission. Fait que là, c'est au tour de Labell de connaître une humiliation. Il va trouver ça très lourd de devoir abandonner sa mission. Il va démissionner le 26 décembre 1890 de son poste politique. Il avait aussi l'intention de démissionner de sa carrière religieuse aussi. Mais il y a quelques jours plus tard, dans le fond, il va décéder d'une hernie étranglée. Puis ce qui est très triste, c'est qu'il va mourir avec la certitude que il a échoué à sa mission de colonisation, puis que le protestantisme, finalement, a gagné. Excusez-moi. Mais ce qui est le plus symbolique dans cette histoire-là, c'est qu'il a un peu raison. Parce qu'arrive en 1892, donc 2 ans après la mort de Labell, il arrive le code criminel du Canada. Puis le code criminel, c'est vraiment le triomphe des églises protestantes. C'est carrément les églises protestantes qui l'ont rédigé, là. Donc, il n'aura pas connu ça, mais les loteries, dans le fond, parce que la loterie de la colonisation a continué un peu après sa mort, vont finir par tout être retirées, dans le fond, du Québec. Donc, on assiste vraiment à la chute, dans le fond, du projet de Labell. En fait, quand je dis que les églises protestantes protestent vraiment contre les loteries, c'est que pour eux, contrairement aux catholiques, il n'y a pas d'ambiguïté. Eux, les jeux d'hasard et d'argent, c'est le mal. Donc, il faut absolument les prohiber. Donc, pour eux, c'est vraiment immoral d'obtenir quelque chose pour rien. Ça discrédite la philanthropie, ça discrédite la générosité des hommes. En plus, ça promeut pour eux la logique du vol, hein, parce que le but, c'est d'aller voler un gros lot. Puis, en plus, ça met un peu en valeur le déséquilibre des richesses. Ça exploite une faiblesse de l'individu, faiblesse qui peut aller jusqu'à la ruine des familles. Donc, c'est vraiment dangereux pour les protestants. C'est vraiment dangereux, les JHA. Il va y avoir beaucoup de mobilisation des groupes puritains et moralistes, surtout des groupes de femmes presbytériennes et méthodistes de classe moyenne, de middle class, qui vont vraiment militer pour l'édification du Code. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code arrive dans une période historique qui est très particulière. Il y a vraiment une intensification de l'industrialisation. Ça fait que tout change dans le Canada, dans ce Canada de la fin du 19e siècle. Il y a vraiment le passage de la vie en campagne à la vie en ville. C'est vraiment, bon, il y a l'arrivée, dans le fond, de la classe ouvrière. Il y a surtout l'arrivée des immigrants qui change pour beaucoup. Dans les villes, on observe beaucoup la misère, la prostitution, l'alcool, le jeu. Puis, en fait, il y a beaucoup d'iniquités que ces groupes-là observent. Puis, ces groupes de femmes-là, ces groupes de protestants-là, ils vont dire, en fait, que ce qui est responsable, dans le fond, de tout ce changement, c'est le déclin des valeurs chrétiennes. Fait qu'ils vont commencer à s'intéresser aux lois, ils vont commencer à s'intéresser à la politique, puis ils vont revendiquer plus de répression. Puis c'est un peu comme ça, dans le fond, qu'est né les premiers groupes féministes. Les réformistes vont militer contre plusieurs vices, notamment le jeu. Et un autre cas aussi qui vont militer, qui est un peu relié à la loterie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le non-respect de l'observance du dimanche. Hein. Le dimanche, il faut se reposer. En fait, c'est pas si banal que ça, s'opposer au non-respect de l'observance du dimanche. En fait, c'est une stratégie pour lutter contre les pratiques des immigrants, les pratiques culturelles. Parce que, par exemple, les Juifs puis les Chinois, ils continuent à travailler le dimanche. Fait que c'est vraiment une manière de... Puis pour eux, enfin, les protestants vont vraiment voir ça comme une offense à Dieu. Les missions des groupes protestants, là, c'est vraiment d'atteindre une pureté sociale. Ça, c'est vraiment leur but, c'est clairement dit. Puis le code criminel, dans le code criminel, ça se ressent, cette vision-là du jeu. Dans le code criminel, dans le texte, les jeux sont considérés comme des nuisances communes. Puis il va quand même être copié sur les propos de l'utilitariste britannique Sir James Stephen, qui est convaincu, lui, que les JHA s'opposent à la vertu de faire de son mieux pour gagner, de traiter ses adversaires avec respect, de conserver la foi qu'on perd sans jamais penser qu'on sera plus chanceux la prochaine fois. Donc, les jeux d'hasard et d'argent s'inscrivent vraiment dans l'offense à la religion, dans l'offense à la moralité. On est vraiment dans la même mouvance que les groupes protestants qui vont franchement aider à rédiger ce code-là. Mais en même temps, il y a plusieurs politiciens, c'est faux de croire que, bon, ils ont juste écouté les protestants, il y a plusieurs politiciens, puis pas juste des politiciens catholiques, ils vont déplorer l'attitude de ces groupes-là en disant que l'objectif du code, c'est pas d'assurer le salut des âmes des Canadiens. Ils vont soutenir qu'il y a plusieurs parieurs, tout le monde peut devenir parieur, puis si on ne sent pas des mauvais citoyens pour autant. Donc, c'est pour ça qu'il va avoir trois exceptions, notamment au code criminel canadien. Il va avoir les courses de chevaux, évidemment, qui sont très populaires dans l'Empire britannique. Il y a les loteries d'objets d'art, puis les roues de fortune dans les foires agricoles. Il faut dire que ces trois exceptions-là correspondent aussi à des réalités économiques au Canada. Premièrement, enfin, si on interdit les courses de chevaux, ça met complètement en péril les troupeaux de chevaux au Canada. Puis donc, le Canada ne peut plus respecter son engagement envers l'Empire britannique, sa dette d'honneur envers l'Empire britannique, pour notamment la guerre des Boers. Pour les loteries d'objets d'or, ben ça va carrément faire fuir l'Union des arts de Londres. Ils ne pourront plus venir ici parce que c'est un peu comme ça qui fonctionne avec les loteries d'or. Puis, avec la question des roues de fortune dans les forêts alimentaires, ben ça va mettre en péril, dans le fond, le développement économique des prairies. Donc c'est ça, là. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, mais pourquoi ils n'ont pas accordé aussi un sursis aux loteries pour le développement du Québec? Bon, ça, c'est un débat en soi. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais continuer comme si rien n'était sur la Première Guerre mondiale, qui va vraiment bouleverser les valeurs victoriennes. Parce que, bon, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des œuvres caritatives qui commencent à organiser des loteries illégales. Puis, bon, c'est des loteries patriotiques, aider le Canada à gagner la guerre. Puis, en fait, ça va un peu changer la notion, le côté très méchant des loteries, de gagner pour rien. Il y a un mérite là, de participer à l'effort de guerre là, qui est intégré, dans le fond, dans les jeux d'hasard et d'argent. Aussi et surtout, il y a les soldats qui vont commencer, qui vont jouer. Puis ça va devenir très sérieux, là, les JHA pour eux, les soldats. Il y en a même qui vont menacer de faire une mutinerie quand ils vont arrêter des opérateurs de jeu dans les troupes. Là. C'est vraiment pour eux hyper important. Puis ils vont continuer à jouer. Les vétérans, là, quand ils vont revenir de la Première Guerre, ils vont continuer à jouer en ne se souciant pas des moralistes. Pour eux, ils n'ont plus de preuves à faire sur leur moralité. Ils vont jouer au jeu des hasards et d'argent. Puis ça va changer un peu les mœurs des Canadiens. Puis de toute façon, les moralistes sont excédés par les années folles. Dans le fond, il y a un gros bouleversement des mœurs. Fait que les jeux d'hasard et d'argent, ben c'est pas si important que ça à côté d'autres mœurs qui sont en train de changer, notamment les mœurs sexuelles. Mais ce qui va surtout changer, la perception, dans le fond, des JHA, c'est la Grande Dépression de 1929. Il y a vraiment un changement d'attitude. On note vraiment un changement d'attitude face aux JHA parce qu'il y a un changement dans la confiance qu'on accorde à la monnaie. Parce que la population réalise vraiment que la monnaie, ça prend tout son pouvoir dans la spéculation. Bon, là, ça va donner des arguments aux moralistes qui vont commencer à dire, ben, regardez ce que ça fait la spéculation, ça nous entraîne vers le gouffre, tout ça. Mais la population, c'est pas ça qu'elle retient. La population, elle retient que le monde économique, c'est un monde imprévisible. Puis c'est un monde qui ne suit pas un pattern qui est dicté par une raison suprême. Là. C'est pas le Dieu, il n'y a pas rapport là-dedans. Là. Ils ont vraiment fait une rupture du lien entre l'argent égale mérite. Là, on n'est plus là du tout. Là. Il y a vraiment une autre façon de penser la monnaie qui entre et c'est ça qui va faire changement. D'ailleurs, dans les années 30, il y a tout un mouvement mondial pour la légalisation du jeu. Il y en a en France, il y en a en Australie, en Espagne, mais en Espagne, je ne suis pas sûr, c'est pas plus tôt que ça. Puis au Canada, il y a le Québec qui continue évidemment à revendiquer les loteries, mais il y a aussi la Colombie-Britannique qui va commencer à vouloir qu'on légalise la loterie. Donc, au Québec, notamment, il y a le projet de loi en 1934, qui est voté à l'unanimité. C'est quand même... Il n'y a même pas d'opposition. Là. On veut créer une loterie pour financer l'UDM encore. Là, j'aimerais ça qu'on ne rit pas des gens de l'Université de Montréal qui se font financer par les loteries. C'est une pratique qui est très commune, notamment dans les universités américaines. L'Université Harvard, Yale, puis Plymouth, tout ça, ils ont tous connu les moments de financement par la loterie. Donc, c'est quand même une chose commune. Mais bon, c'est ça. Au fédéral, il y a plusieurs demandes d'amendement au code là, pour permettre les loteries. Mais les libéraux de Mackenzie King vont s'opposer farouchement. Ils sont à l'opposition au début, ils vont vraiment s'opposer. Par exemple, pour le Bill Barner, le Bill Barner va être défait 105 voix contre 57. Donc, ça ne passe pas du tout l'idée de changer le code criminel au Canada. Puis en plus, ça va de mal en pis pour la loterie parce que Mackenzie King va arriver au pouvoir. Donc on pense même plus du tout à légaliser le jeu. Pour Mackenzie King, c'est vraiment une question d'offense à Dieu aussi. Dans les années 30 aussi, tout se passe dans les années 30. Il y a vraiment, vous en parlerez soit vos parents, soit vos grands-parents, des sweepstakes des hôpitaux irlandais. Donc, tout le monde joue, joue à ça, y compris les politiciens qui sont contre l'amendement. C'est complètement, la folie furieuse. En fait, c'est qu'en Irlande, on se rappelle qu'ils sont catholiques, là, c'est très relié, ils permettent, dans le fond, en 1933, la création de loteries caritatives pour les hôpitaux volontaires. Puis, graduellement, ce qui est très intéressant, c'est que ces organismes-là vont confier l'aspect collecte de fonds à des entreprises privées, parce que, c'est compliqué. Les entreprises vont finir par créer un trust. Excusez, je m'amuse avec le terme confiance, là, mais dans le fond, c'est ça. Les entreprises privées vont être particulièrement efficaces pour mettre les loteries, les sweepstakes irlandais sur le marché, à un point tel qu'ils vont envahir le monde entier, façon de parler encore, mais ils vont vraiment être très agressifs dans le marché international, à un point tel que c'est ça aussi qui va contribuer à créer un peu un mouvement de légalisation des loteries, parce que les gens vont dire, ça n'a pas de bon sens, on est en train de financer beaucoup l'Irlande, dans le fond. Mais le Canada, lui, continue et se maintient sur la position. Ils veulent absolument prohiber. C'est aussi la position des États-Unis, même si l'État du Nevada vont légaliser les jeux en 1930. En 1931, ça, c'est une exception. Ça va créer d'autres choses. Mais en fait, ce qui est très intéressant, là, on arrive avec un autre match de confiance bientôt, c'est que ça laisse en plan un secteur d'activité économique qui est hyper prospère. Fait que, qui va s'emparer de ce secteur-là? T'sais, qui a intérêt, dans le fond, à faire de l'argent avec ça? Mais avant la mafia, c'est qui? Qui est la mafia? C'est les immigrants, en fait. C'est surtout les immigrants. Non, mais c'est parce que j'explique mon lien. C'est surtout les immigrants juifs, italiens, irlandais, c'est des non-protestants, en fait, qui n'ont rien à perdre. Ils ont absolument rien à perdre parce que on les intègre pas à la structure économique du Canada. On refuse de les intégrer, puis en tout cas on les en empêche, puis en plus on les matraque avec l'observance du dimanche, tout ça. Donc ça finit par créer une pression. Ils finissent par s'emparer des loteries, des JHA dans le fond pour se créer un pouvoir économique. C'est eux qui vont créer à Montréal le fameux red light là, dans le fond avec les images, c'est très dans le ton. Où il y a plusieurs, par exemple, des policy shops où on va faire des paris sportifs, où il va y avoir, par exemple, des barbottes, où on va aller jouer aux cartes, on va aller faire des parties de poker illégales avec la fumée de cigarettes. Enfin, ça vous met un peu dans l'ambiance. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, en fait, qui va finir par créer graduellement le crime organisé, parce que, notamment le syndicat du crime qui naît aux États-Unis en 1931, on est vraiment dans ça parce que les profits accumulés vont financer les infrastructures de jeu et dans le fond, toutes les infrastructures du crime. Puis, ça va permettre de financer d'autres activités illicites très lucratives comme la prostitution, la drogue, le trafic des armes, les meurtres aussi qu'on peut commercialiser. On continue aussi à adapter, on continue à faire vivre les jeux d'hasard en les adaptant aux nouvelles technologies. Donc, c'est un peu dans les conséquences de la prohibition. Enfin, il y a un événement qui va particulièrement marquer les jeux d'hasard et d'argent, c'est la fin de la prohibition de l'alcool en 1933 aux États-Unis. En fait, ce que ça crée, c'est que tout le monde qui ont fait les gros sous avec la contrebande d'alcool, ben c'est devenu légal. Fait qu'ils vont transférer leur secteur d'activité dans les jeux d'hasard et d'argent. Puis là, il y a une explosion. Il y a une explosion des JHA puis du crime, notamment à Montréal. Ça, c'est assez intéressant parce que, pas juste à Montréal, dans le fond, il y a trois capitales américaines du jeu. Il va y avoir La Havane, Las Vegas puis Montréal. Montréal vont spécialiser notamment dans le pari téléphonique. Ça, c'est une adaptation de la technologie avec le téléphone. C'est que le FBI pouvait surveiller le pari entre les États. Mais en envoyant les paris téléphoniques de l'autre côté de la frontière, ben, ils ne peuvent plus y toucher. Donc, Montréal va devenir vraiment une plaque tournante. Maman Belle va se faire des gros profits aussi là-dessus. C'est une histoire très édifiante du Canada. Donc, pour vous illustrer un peu ce contexte historique particulier-là, j'ai décidé de suivre l'exemple de Chaskel Lazarovitch, qui est mieux connu sous le nom d'Harry Davis. C'est un juif roumain qui est immigré à l'âge de 10 ans en 1908, d'essayer tant comme il a pu de s'intégrer au réseau du travail régulier. Mais bon, ça ne marche pas du tout. Fait qu'il a fini par se tourner vers le milieu du crime à la fin de la Première Guerre mondiale, puis il va devenir rapidement très prospère. En fait, Harry Davis, là, si vous voulez vous faire une image mentale, là, c'est l'archétype par excellence du dandy mafieux, qui est toujours bien habillé, qui est chic avec les femmes. Lui, il ne touche pas à la prostitution par respect pour les femmes. Il va être très entouré, puis il va être très craint, dans le fond, parce qu'il va être méchant. Hein. Surtout que c'est le bras droit de l'enfant de cœur états-unien, Louis Lepke Butchelter, je ne sais pas comment le prononcer, qui est dans le clan de Lucky Luciano. Fait que là, on est vraiment là, dans une bretelle canadienne d'un réseau très, très fortement implanté. Harry Davis va surtout faire des affaires avec son ami Fat Charlie, dans le fond, qui est un homme d'affaires juif avec qui... ça, c'est vraiment étrange. Il va être appelé, Fat Charlie va être aussi surnommé le roi du Nord, étrangement comme le curé Labelle. Il y a des coïncidences dans l'histoire comme ça qui ne s'expliquent pas, mais bon, les deux rois du Nord, les deux font affaire. Donc, c'est ça. Les deux vont Fat Charlie et Harry Davis, là, c'est vraiment comme les deux doigts de la main, ils vont orchestrer plein de maisons de jeu partout à Montréal. Ils vont aussi faire des affaires dans le trafic de stupéfiants. Malheureusement ou heureusement, ça dépend où on se place, il y a un douanier qui va vouloir en finir, puis qui va aller se livrer à la police pour dénoncer les activités illicites de Fat Charlie. Fat Charlie va être amené au poste, il va être condamné à 5 ans de pénitencier. Puis Harry Davis, même s'il y avait des contacts dans la police, ben, il n'a pas intervenu. Il a laissé la chose faire. Fait que là, on assiste vraiment à une rupture de confiance entre les deux amis. Fait que qu'est-ce que ça va créer? C'est que Fat Charlie va dénoncer son ami. Il va balancer littéralement son ami Davis contre une peine d'emprisonnement réduite. Ça va créer, dans le fond, un immense procès qui va être très médiatisé. Ça va être dans les premiers procès avec une démonstration de la preuve hyper lourde, avec des enregistrements audio. Tout ça, c'est vraiment un moment en histoire de la police qui est particulier. Harry Davis va écoper, lui, d'une peine de 14 ans de prison. C'est énorme pour l'époque, pour des crimes de sa nature. Pendant ce temps-là, Fat Charlie va jouer les hommes libres, en arguant un peu, en disant « bon, je suis libre », puis il va se faire assassiner. Vraiment, on est vraiment comme à Chicago. Là, il va se faire assassiner dans les circonstances hyper humiliantes. Ça revient encore à l'idée de l'humiliation. Ça date pas d'hier, le vedettariat chez les criminels, parce que dans le procès de Fat Charlie, il y a eu 3000 personnes qui sont venues assister à leur funérailles c'était vraiment entre l'admiration puis la crainte qui inspirait ces hommes criminels-là. Davis va sortir en 1945 de prison, mais il va continuer ses activités criminelles comme si de rien n'était. Mais il y a un de ses employés Louis Berkowitz, qui va vouloir commencer à son compte, là, à vouloir commencer à exploiter des maisons de jeu. Davis va refuser. Puis, étrangement, coïncidence ou non, il y a une bombe qui va éclater pas longtemps après dans un des bureaux de Davis. La rumeur, évidemment, accuse Berkowitz. Puis là, ben, quand t'as une rumeur comme ça dans le crime organisé, ben, ça va pas bien. Fait que pour se sauver la vie, il va décider d'aller assassiner Harry Davis devant le quartier général sur la rue Stanley, le quartier général de Davis. Puis après ça, il va courir se réfugier à la police pour livrer, dans le fond, pour se livrer. Puis dans le fond, livrer beaucoup de détails sur comment ça fonctionne, le crime organisé, comment ça fonctionne avec le lien avec l'escouade de la moralité, notamment dans la police. Coïncidence, autre coïncidence, là on commence à ne plus y croire, il y a le capitaine de la police, Arthur Taché, 5 jours plus tard, qui démissionne de son poste suite aux allégations de Berkowitz. Donc, les autorités vont dire « oui, ça n'a pas de lien entre les deux, entre l'assassinat de Harry Davis et le départ d'Arthur Taché ». Mais bon, les journalistes, puis la population, de manière générale, n'est pas dupe. Là, on comprend, tout le monde comprend ce qui se passe. En fait, c'est que, les commissions d'enquête vont toutes révéler la même chose, c'est qu'il y a vraiment une tolérance de la police face au milieu du jeu, puis face au milieu du crime organisé. D'ailleurs, la police va littéralement avertir les tenanciers de maisons de jeu avant d'orchestrer des descentes. Ils vont aussi ramasser des faux tenanciers, là, un peu comme une demande de rançon. Là. Puis bon, ils vont aller payer pour sortir l'acteur un peu qu'ils ont mis à la place du bookmaker. C'est un peu une mascarade pour tout ça. Puis les journalistes, la population, là, le cynisme était vraiment à son comble. Là. Il y a vraiment un climat de méfiance contre la police, contre le lien entre la police et le crime organisé. La municipalité de Montréal, dans le fond, elle se sert de ces amendes-là, elle se sert de ces descentes-là comme un peu un impôt municipal, comme une taxe, c'est vraiment une taxe pour elle. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant de constater dans la représentation des jeux, c'est que dans la période d'après-guerre, les jeux sont plus du tout reliés au vice, sont plus une source de revenus pour le crime organisé. C'est une source d'argent sale. Donc, on est loin des injonctions du Dieu chrétien. On déplore pas vraiment la corruption de l'âme. On déplore plus la corruption du corps de police, mais du corps social. Donc, on est vraiment là, je reviens avec ma petite phrase jolie, on a vraiment basculé de la croyance à la créance. Là. Les jeux, ça sert de moyen de créance, dans le fond. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que, pourquoi je vous ai parlé d'Harry Davis, c'est que c'est très symbolique. Parce que le départ de Taché, tout est très connecté, le départ de Taché, ça amène, dans le fond, l'arrivée du nouvel adjoint de l'escouade de la moralité de Montréal. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été très, très, très populaire dans les années 40, dans les années 50 surtout. Il s'appelle Pacific Plante. Pax, qu'on le connaît. Lui et son équipe, il va vraiment avoir une rupture radicale avec les anciennes pratiques de police. Parce que, justement, un mois après l'embauche de Pacific Plante, ils vont débarquer puis ils vont arrêter Harry Shipp. Harry Shipp, c'est un peu le Steve Wynn montréalais des années 40. Là. C'est vraiment un grand tenancier, un grand bookmaker qu'on appelle, là, qui opère beaucoup de JHA dans la ville, puis qui est un peu impliqué politiquement un peu partout. Là, Pacific Plante arrive, puis première chose qu'il fait, il l'arrête. Là. Donc, il déclare vraiment la guerre au crime organisé. Le devoir, dans le fond, la façon qu'il décrit, c'est vraiment comme un héros romantique du Québec, sans peur et sans reproche, vraiment l'incorruptible Pacific Plante, l'avocat sans peur et sans reproche. Donc, ce qui est intéressant dans le cas de Pacific Plante, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a eu un basculement entre le vice puis entre le vice puis autre chose. On est encore un peu dans. C'est que il va décider littéralement lui de même attaquer les curés qui organisent des bingos. C'est assez particulier. Puis lui, il va faire ça, mais il va aller s'attaquer au curé. Puis il va même pas demander la permission. Il va même pas demander la permission à l'archevêque Charbonneau. Il va juste l'avertir de la situation. En fait, il faut dire que l'archevêque Charbonneau, ça fait un peu son affaire parce qu'il n'arrive pas à discipliner ces curés là. Puis il continue. Puis même s'il leur dit, organisez pas des bingos, ben En fait, mais en fait, les curés, c'est un peu moins difficile à chasser que les criminels, hein, parce que bon, il va suffire à Pacific Plante d'organiser une conférence de presse pour dire que désormais, les curés désobéissants vont se faire ramasser. Je ne sais pas si vous vous imaginez, dans les années 40, qu'est-ce que ça représente de dire, de tenir une conférence de presse pour dire que je vais m'attaquer à la religion s'ils nous continuent à nous désobéir. On voit vraiment qu'il y a vraiment un changement de pouvoir entre la religion puis la police, dans le fond. Ce qui est très drôle, anecdote en passant, c'est qu'il y a un curé qui va décider, lui, de désobéir quand même. Fait que lui, il organise son bingo. Pacific Plante, lui, décide que, bon, OK, on fera pas trop de brouhaha, là, mais il décide de feindre à son tour un peu une descente de police en amenant un gros panier à salade devant l'église. Enfin, il y a les catholiques se sont mis à sortir de l'église, ils ont eu la peur de leur vie. En fait, c'est comique, mais en même temps, c'est très violent symboliquement là, d'arriver avec un panier à salade pour ramasser des catholiques. On n'est plus dans le Québec très catholique comme on croyait. Là. On sent que le pouvoir est désormais échappe dans le fond plus aux curés qu'on pensait. En fait, c'était des anecdotes, mais la véritable cible de Pacific Plante, ça reste le crime organisé. Il va se faire évidemment beaucoup d'ennemis à l'intérieur du crime organisé qui vont envoyer plusieurs menaces. Ils vont même envoyer des prostituées. En fait, ils vont envoyer des prostituées à l'escouade. C'est pas dénué d'intérêt parce que dans le fond, le but, c'était d'attaquer la moralité de cette escouade-là. Mais Pacific Plante et son équipe vont aussi s'attirer les foudres du directeur de police, Albert Langlois, qui va étrangement demander, pendant justement l'épisode des prostituées, il va envoyer un curé enquêter sur la moralité de cette... Fait qu'on sent qu'il y a un peu une collusion qui n'est pas très louche. Mais enfin, le curé qui était chargé de l'enquête va décréter en l'honnêteté de Pacific Plante qu'il n'y a rien à lui reprocher. Fait que là, Albert Langlois se trouve un peu au dépourvu, mais il invente tout à fait une raison pour son congédiement, puis il l'obtient le 8 mai 1948, fait qu'il ne sera pas vraiment en poste très longtemps. Ce qui est particulier, c'est que le comité exécutif de la Ville de Montréal entérine la décision. Donc, c'est vraiment particulier. Pacific Plante est vraiment humilié à son tour, mais contrairement aux autres, il va préparer une vengeance. Ça va prendre un an et demi, il y a un silence de mort pendant un an et demi, puis, le 28 novembre 1949, ça commence. En fait, entre 1949 et le 18 février 1950, Pax publie 60 articles dans Le Devoir qui dénoncent chacun la protection du crime organisé par les policiers puis par l'administration publique, par l'administration municipale de Montréal. Ça déclenche vraiment une crise de confiance au sein de la population qui sait un peu dans... Enfin, il sait un peu que ça se passe, mais là, il y a quelqu'un qui cause le dénoncer. Pacific Plante va publier un livre qui va faire vraiment un malheur. Je ne sais pas si c'est 1500 copies vendues la première semaine ou 15 000, mais enfin, c'est énorme, là, peu importe lesquels les deux montants. Il va publier le livre, dans le fond, Montréal sous le règne de la pègre, qui est dans le fond juste un recueil de ces 60 articles-là. Mais ça fait vraiment son bonhomme de chemin. Mais surtout, ce qu'il va créer, le comité de la moralité publique. Là, on est vraiment loin de la moralité presbytérienne. Là. C'est une autre sorte de comité, tout à fait. Le comité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rédiger un mémoire de 1095 pages, quand même, dans lequel on compte 4800 chefs d'accusation contre 66 personnes. C'est très sérieux. Puis la requête, dans le fond, de ce comité-là va être accordée. Puis ça va ouvrir la plus vaste enquête sur la corruption municipale qui a jamais eu lieu au Québec. Ça va être surnommé l'enquête du siècle. En fait, c'est la commission Caron. Puis les avocats du comité, c'est évidemment, bon, Pacific Plante, puis l'autre, je suis sûr que vous le connaissez aussi. Exactement. Le maire Drapeau. En fait, c'est que la commission Caron va permettre à l'avocat Jean Drapeau de vraiment avoir la visibilité, puis ça va lui permettre d'être élu en 1954. La première chose qu'il fait, Drapeau, c'est vraiment symbolique. Il va nommer Pacific Plante à la tête de la police de Montréal pour qu'il continue son ménage. Il va aussi, il faisait très intéressant, il va renvoyer littéralement les journalistes qui ont accepté des pots de vin de l'administration municipale avant. Comment ça fonctionnait? C'est que l'administration municipale accordait des contrats de travaux de traduction, entre guillemets. Puis dans le fond, ça servait c'était tellement commun que les journalistes avaient fini par inclure ça dans leur budget. Puis ça servait, dans le fond, à fermer les yeux sur ce qui se passait de plus ou moins catholique, ou catholique, je ne sais pas, mais ce qui passait plus ou moins de droit dans l'administration de Montréal. Mais bon, Pacific Plante, okay, il est de retour dans la police, mais il y a quand même eu un grand laps de temps entre son premier mandat et son deuxième. Il faut dire que c'est rendu très compliqué le milieu du crime organisé, ça se complexifie de jour en jour. Il faut dire que du côté des États-Unis, ils font aussi un ménage. Donc, il y a plusieurs criminels états-uniens notoires, pour ne pas se faire pogner, ben, ils traversent la frontière aussi. Là, le red light, ça n'existe plus. Là, il est complètement dissipé. Là, fait que c'est plus du tout les mêmes techniques de police. Donc, Pacific Plant, il est un peu excédé par tout ça. Mais il n'aura pas le temps, dans le fond, de travailler très longtemps parce qu'en 1957, qu'est-ce qui arrive? C'est que Drapeau perd ses élections. En fait, il perd ses élections contre Sarto Fournier. Sarto Fournier, qui est un candidat duplessiste, littéralement. Puis on va apprendre plus tard qu'il a été très financé par des sources de revenus très obscures. Donc, le crime organisé appuyait vraiment la nomination de Fournier. Évidemment, Sarto Fournier, une des premières actions qu'il a fait, c'est qu'il a retiré Pacific Plante de la direction de la police. En fait, il ne l'a pas retiré, il l'a obligé à la retraite. Donc, comme Mgr Bourget, comme tout le monde. Et Pacific Plante, pour assurer sa sécurité, dans le fond, va s'exiler au Mexique, où va finir ses jours, avec une plus grande quiétude. Là, je vais laisser un peu l'histoire du crime organisé de côté, parce que, bon, elle continue jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je vais voir un peu comment on peut extirper les jeux de hasard et d'argent de cette histoire-là, qui va prendre une autre direction. Disons qu'elle va s'intéresser à d'autres types d'industries, admettons la construction. Parce que durant les années 1940-1950, il y a aussi des actions politiques, des offensives pour la légalisation des loteries. Le gouvernement fédéral, bon, il continue à rien vouloir savoir, mais on sent un premier signe de fatigue en 1949. Le gouvernement fédéral autorise un examen systématique du code criminel pour la première fois. Il faut quand même le faire en plus de 60 ans pour le code criminel. Il va autoriser une commission royale à se pencher sur le code criminel. Ils vont pondre le rapport en 1952. Malheureusement, pour les pro-lotoïstes, pour les pro-loto, ils ne vont pas formuler de recommandations pour la légalisation du jeu. Ils vont plutôt dire que les JHA sont d'une nature trop controversée pour se pencher sur la question. Donc, ça a été plutôt décevant pour eux. En 1954, il y a un nouveau comité conjoint, cette fois, entre le Sénat et la Chambre des communes qui va être créé. Puis, on va leur demander de se pencher spécifiquement sur trois dossiers: la peine de mort, le châtiment corporel et la loterie. Moi, je trouve ça plutôt comique de mettre ça les trois en parallèle. Mais bon, ils vont se pencher sur ces trois points-là. Puis, ce qui est très intéressant, c'est que leur rapport, ils vont produire le rapport en 1956. Puis, pour la première fois, pas pour la première fois, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de précédence, mais cette fois-là, on n'écoutera pas du tout, on n'écoutera pas vraiment les groupes prohibitionnistes de protestants qui continuent à être très actifs, qui continuent à vouloir maintenir cette prohibition-là active. Là, sont pas vraiment, c'est pas leur argument qui passe. La logique de la prohibition est conservée telle quelle, mais cette fois-là, le groupe de pression qui va vraiment se faire entendre, c'est l'Association des directeurs de police. Tiens donc. Eux, ils vont demander de raffermir les lois. Ils vont demander de les clarifier pour permettre un plus grand contrôle. Donc, il y en a plusieurs qui vont voir. Puis, dans le fond, le rapport va vraiment statuer sur l'importance d'avoir des politiques plus strictes en matière de jeux d'hasard et d'argent. Là, on peut vraiment voir ça comme une forme de fermeture d'esprit du gouvernement fédéral qui ne veut rien savoir des jeux d'hasard et d'argent. Mais dans le fond... il y en a d'autres, beaucoup moins nombreux, qui vont proposer de voir ce rapport-là comme une démarche, un pas en avant pour la légalisation du jeu, parce qu'on essaie de séculariser les politiques. Dans le fond, le but, c'est d'exorciser le code criminel de l'éthique chrétienne, de l'éthique des protestants, dans le fond. Fait que, dans le fond, on cherche pas vraiment à prohiber le jeu. On veut juste que le jeu soit on veut juste reprendre le contrôle. On veut juste que les autorités reprennent le contrôle sur le jeu. Dans la même logique, en science, il y a quelque chose de le rapport, c'est en 1956. En science, on crée, en 1957, le joueur pathologique. Ça, c'est les travaux d'Edmund Bergler, le très connu, dans son livre très connu, le Psychology of Gambling, là, qui est vraiment la base en gambling studies. En fait, ça, c'est, je peux pas vraiment aimer Edmund Bergler, honnêtement, parce que il a fait beaucoup d'études, par exemple, sur les thérapies de conversion d'homosexuels. Donc, c'est vraiment un personnage particulier. Mais ce qui est très intéressant dans son cas, c'est que la première fois qu'il y a une étude qui sort le jeu de la morale, du registre de la moralité, du registre du péché. Dans le fond, on lui va dire, c'est pas tous les joueurs qui sont affectés d'un problème de contrôle. Il y a juste certains joueurs qu'on appelle les joueurs pathologiques. Donc, et ce qu'il dit qui est vraiment révolutionnaire, puis il va faire plusieurs publications, puis il va vraiment être connu pour ça, c'est qu'il va dire que c'est pas l'Église, c'est pas le rôle de l'Église de contrôler les pulsions de l'homme. Et ça, c'est révolutionnaire. Il dit plutôt que c'est la science. En même temps, en 1957, grosse année, c'est en même temps la création de Gambler Anonyme. Fait que, ça, c'est en 1957, c'est aux États-Unis que ça crée. Mais il y a vraiment un mouvement qui se crée. Parallèlement, on sent qu'au Canada, il y a vraiment un mouvement de sympathie pour les loteries parce que, en 1955, il y a un sondage Gallup qui dit que il y a juste 23 % des Canadiens qui désapprouvent une loterie au Canada. C'est quand même beaucoup quand on compare aujourd'hui, mais quand même, en 1955, c'est très révolutionnaire. Puis ce chiffre-là va perdre 9 points en 1969. C'est énorme, dans le fond, pour qu'on parle de conviction. Là, arriver à 14 % des personnes qui sont contre les loteries, c'est énorme. Le gouvernement fédéral, en revanche, il va continuer de pas légiférer sur la matière de loterie dans les années 60. Mais par contre, ils vont arrêter de protester. Ils vont juste laisser aller, ils vont juste faire la sourde oreille. Il y a 6 projets qui vont être nommés durant les années 60 pour changer la législation sur les jeux d'hasard et d'argent. Puis bon, ils vont juste déboucher à nulle part. Ils vont juste être enterrés. En fait, c'est que faut comprendre la période des années 60 comme une période de gestation de la politique pro-loterie. Ce qui va mettre beaucoup de pression au gouvernement canadien, qui n'a pas l'air vraiment à se presser dans les années 60, c'est que en 1963, les États-Unis, enfin l'État du New Hampshire crée sa propre loterie. C'est surtout en Grande-Bretagne, il y a vraiment un vaste projet de réforme de leur code criminel à eux. Puis ça va vraiment créer un précédent. En 1967, le ministre de la Justice va commencer à réfléchir à un bill omnibus pour justement retirer du code criminel les crimes contre la moralité chrétienne. Bon, ce ministre-là, c'est Pierre-Éliott Trudeau, exactement. Mais bon, le projet de le bill omnibus de 1967 aboutira pas parce que bon, on sait tout ce qui s'est passé. Bon, le gouvernement a été dissolu, ça a été reporté plus tard. Le projet a été avorté, mais bon, vous connaissez un peu la suite, mais je veux quand même la raconter. C'est que, et là, c'est un lien, je vais faire un lien qui est assez particulier, mais qui est finalement très relié à la légalisation des jeux au Canada. En 1968, à Winnipeg, il y a des policiers qui perquisitionnent une demeure puis qui surprennent une femme en train de faire une fellation à son mari. Okay? C'est un lien avec la loterie. C'est que le couple va être accusé de grossière indécence. Mais elle va être acquittée, évidemment, puis le cas va aller jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême va statuer que les relations qui se passent en privé entre adultes consentants ne sont pas des actes criminels. C'est en soi une révolution un peu contre le code criminel canadien. C'est surtout que ça réveille l'affaire Clippert de 1967. Clippert, il a été condamné à la prison à vie. Parce qu'il était, selon le guide, le code, un incurable prédateur sexuel incapable de contrôler ses pulsions. Mais Clippert, dans le fond, son crime, c'est d'avoir eu des relations sexuelles avec des hommes adultes consentants. Donc, dire qu'avoir des relations sexuelles, qu'est-ce qui se passe dans la vie privée entre adultes consentants, ça, c'est pas du crime, mais ça réveille vraiment cette histoire-là. Puis c'est surtout que la même année, en Grande-Bretagne, ce même homme qui a été jugé à prison à perpétuité, bien, ça serait un homme libre en Grande-Bretagne. Donc là ça polarise vraiment l'opinion publique au Canada. Puis, dans le fond, l'idée, ça va être de sortir, la fameuse phrase, c'est de sortir l'État de la chambre à coucher. En fait, ça va devenir vraiment un enjeu de la campagne électorale. Le but, ça va vraiment être de dissocier les crimes de conscience puis les cas de conscience. Donc, Pierre-Éliott Trudeau va prendre le lead, puis il va vraiment faire un enjeu électoral. Il va évidemment gagner. Puis, il va remettre de l'avant ses amendements au Code criminel canadien dès 1968, dès son entrée en décembre. Il va réintroduire le dossier. Puis, le lien que je fais, finalement, avec justement ce couple-là, c'est que dans la loi C-195, il y a tellement de choses que l'article 13 de l'acte qui concerne justement les jeux va passer complètement inaperçu. Il n'y aura absolument pas de débat sur les jeux de hasard et d'argent. C'est comme un peu, rendu là à côté, la décriminalisation de l'homosexualité puis la décriminalisation de l'avortement passe beaucoup... Enfin, ça enflamme l'opinion publique beaucoup plus que les loteries, c'est un peu acquis pour... Donc, le lien, vous pourrez dire que l'Auto-Québec est un peu relié à une histoire, hein, qui s'est passée à Winnipeg en 68. La réforme est votée le 14 mai. La réforme est votée le 14 mai 1969, puis elle va entrer en activité le 1er janvier 1970. Là, je vous demande des gros calculs. Le Québec va réussir à organiser un premier tirage le 14 mars 1970. Comment ça que la bureaucratie canadienne va aussi vite? C'est 3 mois, même pas 3 mois, puis premier tirage. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore là, un autre match de confiance. Oui, Drapeau est réélu en 60. Dans le fond, il y a des projets de métro, d'exposition universelle, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il perd graduellement ses outils fiscaux. Hein, c'est que le provincial va piquer petit à petit, dans le fond, tous ces outils-là, comme l'impôt municipal et la taxe de vente. Ils vont tous les réapproprier. Pour regarnir ses coffres, Drapeau, il va s'inspirer de la ville de New York et il va créer la taxe volontaire. Il va créer ça en 1968. Bon, on s'entend, la taxe volontaire, là, c'est une loterie déguisée. Hein, parce qu'ils font tirer, dans le fond, un lot de 100 000 $ puis d'autres lots un peu plus petits. Mais ils disent que ce n'est pas une loterie parce qu'il faut répondre à des questions. Il faut dire que les questions sont inscrites à l'endos du billet. Les réponses aux questions sont inscrites à l'endos du billet. Mais il y a quand même quelqu'un qui va réussir à ne pas répondre correctement aux questions. Il y a tout de suite un fonds d'indemnisation qui va être créé pour qu'il récupère son lot. Mais enfin, c'est une autre anecdote que je trouve savoureuse. Ce qui est quand même surprenant, c'est que cette taxe volontaire-là, elle va être actionnée par le gouvernement de la province. Ça, c'est la première fois qu'il y a une désolidarisation entre Montréal et la province qui veut te mettre carrément dans les bâtons des roues de la ville de Montréal parce qu'elle veut sa propre loterie. Là, j'ai pas le droit de parler, je vais faire un peu mon scientifique, j'ai pas le droit de parler de rupture de confiance parce qu'on peut pas parler de confiance dans les institutions. Les institutions, c'est pas personnel, là, c'est très des blocs, là, puis ils ont pas de sentiment, les institutions. Mais bon, on peut quand même voir qu'il y a une joute de confiance, entre guillemets, qui se joue là. Qu'est-ce qui explique, dans le fond, la désolidarisation? Je suis là. C'est ça. Dans le fond, il va actionner. Puis le 22 décembre 1969, la Cour suprême va déclarer la taxe volontaire de Montréal illégale. Ce qui est très, 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 très ironique, c'est que à peu près la semaine suivante, là, on sait que le 1er janvier, ça devient illégal. Là. Fait que c'est très ironique comme situation. En fait, on se dit que le provincial aurait pu attendre, là, franchement, ou il aurait pu octroyer à la ville un permis particulier. Mais c'est pas ça que le gouvernement provincial va faire, mais pas du tout. Elle va décider de se préparer, dès l'adoption de la réforme de Trudeau, en créant, bon, d'une part, la Société d'exploitation, qui porte bien son nom, la Société d'exploitation des loteries et des courses du Québec, qui va devenir Loto-Québec, et la Régie des loteries et des courses, qui a le mandat de surveiller, dans le fond, toutes les JHA qui ne sont pas encadrées par Loto-Québec. Puis, ils vont commencer leur activité, dans le fond, dès le 1er, dès le 1er janvier. Un mois plus tard, le 9 février, la Société d'exploitation signe une entente avec la Ville de Montréal qui vient de se faire déclarer sa taxe volontaire illégale pour réquisitionner tout le personnel et tout le matériel de la taxe volontaire. En plus de ça, elle va lui demander à peu près 1 million de dollars, soit dans le fond l'ensemble des recettes que la taxe volontaire a générées. Puis en plus de tout ça, c'est que le premier tirage du 14 mars est littéralement copié sur la taxe volontaire. Moi, ce que je vais terminer là-dessus, moi, ce que je trouve exceptionnel dans cette démonstration-là, c'est que cette entrée remarquée-là de l'Auto-Québec, là, dans le fond, ça vient vraiment. L'État ne pouvait pas mieux illustrer, dans le fond, l'idée que la loterie, c'est vraiment un jeu de confiance. Merci. Mais en même temps, le centre de l'Auto-Québec s'est ramassé. Les employés n'ont pas perdu leur emploi. Il y a plusieurs façons, dans le fond, de voir l'affront, entre guillemets. C'est un transfert. C'est comme si que le maire Drapeau avait créé l'Auto-Québec, mais la ville n'a pas nécessairement réussi à obtenir son outil fiscal qu'il cherchait pour réussir à financer. La loterie de la colonisation?
Non, je veux dire en 60.
C'est taxe volontaire.
Ça s'appelait taxe volontaire?
Ouais.
Ah oui.
Oui. Non, en fait, non, c'est ça, c'est le Québec a été là, d'une précocité. Là, ah oui, il attendait ça, ben c'est ça. Puis ça gênait aussi un peu les autres provinces. Puis qu'est-ce qui a débouché? Il y a des provinces qui voulaient littéralement ne pas avoir de société d'exploitation des jeux. Mais c'est dans le fond, un peu plus tard, avec la qu'est-ce qui a, dans le fond, foutu le bordel dans tout ça? C'est la fameuse loterie des Jeux olympiques. Là tout d'un coup, ça, dans le fond, ça vient d'une lecture souverainiste, là, mais bon, il y a des personnes qui vont dire que qu'ils ne voulaient pas que les fonds... la loterie des Olympiques va être jouée dans les autres provinces. Puis là, ils ont commencé à dire, mais là, ça n'a pas de bon sens que les capitaux vont tous se transférer vers le Québec. Fait que là, ça a créé, dans le fond, une espèce de compétition entre les provinces. Et là, et c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a quatre aujourd'hui sociétés d'exploitation au Canada, là, dans le fond, avec les Maritimes, l'Ontario et les provinces de l'Ouest. Puis en fait, c'est l'Auto-Canada, en fait, qui a foutu un peu le bordel. Il y a eu l'Auto-Canada quelques années. Puis c'est ce qui a fait en sorte que les provinces ont voulu se rapatrier ce qui leur est dû. Puis l'Auto-Canada n'existe plus. Fait que mais c'est encore là, c'est encore une joute de confiance. Oui? Oui, c'est mon doctorat actuellement. Ce que je suis en train de faire actuellement. Fait que puis là, je rédige tranquillement, puis c'est ça.
Moi, c'est juste un commentaire par rapport à ce que vous parlez. Parce que je pense que des fois, on parle souvent de l'Auto-Québec, mais c'est l'État-providence. Le monde, on remplaçait un peu comme l'espérance dans la religion, dans les croyances, dans l'espérance dans l'Auto-Québec.
Mais c'est pour ça que j'insiste sur l'idée que l'État joue la confiance de ses citoyens. On est vraiment là. Les principes éthiques entourant la loterie, là, c'est vraiment particulier. Là. C'est vraiment... Le maître de jeu est tellement étrangement perçu que... Enfin, ça crée vraiment un malaise, dans le fond, un malaise dans justement cette notion d'État-providence qui veut le bien de ses citoyens, qui veut le bien commun, puis finalement, qui, par le bien commun, dans le fond, va favoriser une personne en particulier avec le gros lot. C'est très contradictoire, la loterie. Il y a plusieurs personnes en économie politique, normalement, qui vont très critiquer la position de l'État face aux jeux d'hasard et d'argent, là. Mais bon, il y a le gros débat. Est-ce que l'entreprise privée, dans le fond, gérerait mieux? Dans le fond, le problème, à la base, il est dans le principe éthique de ces jeux-là.
En parallèle de tout ce que vous avez raconté, extrêmement intéressant, ça fait comprendre.
Merci. Mais ça, ce qui est intéressant avec la notion de confiance, justement, c'est que c'est très... la confiance, c'est un objet qui est manipulable. Donc, c'est à la fois... C'est très fragile. Et c'est ça qui est particulier. Dans le fond, c'est magnifique, la confiance, mais ça peut tellement être dramatique aussi. Donc, et le jeu, dans le fond, c'est tellement ça. C'est tellement, on ne peut pas vraiment parler de courage, mais c'est tellement éphémère. C'est tellement grand et petit à la fois que c'est ce qui fait, dans le fond, toute la poésie de ce jeu-là.
Oui, puis
ça continue, la question de l'assurance continue à être hyper importante, parce qu'on va dire que la loterie, c'est une assurance rêve. Puis ça se comprend, dans le fond, dans le niveau économique, ça se comprend de la même façon. Dans le fond, dans l'assurance, il n'y a pas de produit relié à ça. Même chose que la confiance, c'est pas un produit. Ben, on peut considérer ça comme un produit, mais c'est très particulier comme objet. Dans le fond, c'est ça, les jeux de hasard et d'argent sont vraiment gérés comme une forme d'assurance. Il y a vraiment un hyper beau parallèle à faire entre ces deux formes économiques-là. Ah, il n'y a pas de problème.
Non, en fait, c'est une question. Je ne vais pas te fournir une réponse, en fait, mais juste, je vais avoir ta réflexion plutôt. Selon toi, qu'est-ce qui fait que l'homme joue à des jeux de hasard depuis pratiquement les débuts de l'humanité?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait que c'est présent dans toutes les sociétés humaines depuis trop généralisé dans la majorité des sociétés humaines depuis...
Oui, en effet, j'aime pas ta question. Parce que là, je peux te répondre en tant qu'humain, mais je peux pas te répondre en tant qu'anthropologue. Hein? Parce que si je te réponds en tant qu'anthropologue, je suis en train de verser dans l'universalisme. Là, je suis en train de parler. Je peux jouer à Claude Lévi-Strauss, là, mais je ne jouerai pas à ça. Là, pas ce soir, pas ici, pas maintenant, puis pas jamais non plus. Mais je pense qu'on a chacun... Moi, j'ai interrogé 200 personnes, puis les 200 personnes, ils ont vécu... Ils vivent leur jeu différemment. Fait que là, quand tu me demandes comment que ça se... Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je pense que si je reviens à ma notion de confiance, je pense que l'humain, dans le fond, traîne, construit sa confiance depuis que le monde est monde, là, si on verse dans les généralités. Mais là, je suis en train de te répondre en tant qu'être humain, je ne suis pas en train de te répondre en tant qu'anthropologue, merci. Mais c'est ça, je pense que. Puis c'est très relié, dans le fond, à un registre de conviction qui n'est pas tout à fait religieux, qui n'est pas tout à fait. C'est vraiment particulier comment. Puis je pense qu'à chaque époque, on va l'interpréter différemment. On va. La culture va s'emparer de ce jeu-là, puis va le transformer comme il veut. Là on vit dans une société capitaliste. C'est vraiment le capitaliste qui va récupérer les jeux d'hasard et d'argent, puis qui va le faire vivre d'une certaine façon. Tu sais, qu'on va dans d'autres sociétés, là, je pense au fameux article en anthropologie, aide-moi Mathilde, James Clifford, Clifford Geertz, sur le combat de coq à Bali. Ça, c'est vraiment l'exemple en anthropologie américaine là, qui est vraiment, lui, il a analysé un autre jeu d'hasard et d'argent, puis il va dire c'est quoi être balinais selon ce qu'il a vu dans les combats de coq. Et on voit vraiment là que le jeu est vécu tellement d'une manière différente. Je ne suis pas sûr que ça serait bien de comparer ces expériences-là entre elles. Je ne suis pas sûr que ça serait très sain pour un projet scientifique, mais je pense qu'il y a quelque chose de très... Enfin, je pense que ça amène quand même une réflexion qui est plus philosophique sur l'être humain, plus qu'anthropologique, mais je ne m'improviserai pas philosophe, même si je me suis improvisé historien ce soir, là, je vais arrêter de porter trop de chapeaux à la fois. Mm-hmm. En fait, ce qui est très intéressant dans votre question, puis c'est un article que je n'ai pas parlé dans la série des ouvrages historiques. Colin Campbell, avec celui qui a fait ça sur les exemptions là, en fait, c'est le criminologue, le deuxième, là, celui qui n'a pas compris qui n'a pas vraiment compris dans sa thèse c'est quoi le passage de vice à loisir. J'aurais dû un peu nuancer en disant qu'il a produit un article avec Smith, James Smith, je ne me rappelle plus son prénom, mais Smith, ça fait, c'est Campbell et Smith. On produit un article en 2003 qui a vraiment marqué tout le champ des gambling studies parce que, justement, en refaisant l'histoire du jeu au Canada, tout ça, il a continué un peu dans la période plus contemporaine, puis il a montré que, dans le fond, ce passage-là continue vers la notion de jeu responsable. Fait que, puis là, on est vraiment, dans le fond, là-dedans, c'est vraiment la notion de jeu responsable. On est là avec la création de programmes pour aider les joueurs compulsifs, tout ça. On est là-dedans. Puis là, qu'est-ce qu'on réalise de plus en plus, et en continuant, c'est que cette notion de jeu responsable-là est vraiment en train de faire perdre un peu de faire perdre la crédibilité à la société. Puis là, de plus en plus, on veut que les citoyens s'investissent dans la surveillance de l'Auto-Québec pour voir si elle est vraiment si la société d'État est si responsable que ça. Donc on voit que l'histoire continue à s'écrire justement, puis ça s'écrit notamment avec ces programmes-là, tout ça. Donc, est-ce que ça répond bien à votre question? Ça s'inscrit vraiment, là on est vraiment dans le sommet, là présentement si on veut des subventions pour travailler sur les jeux, là c'est un mot, c'est responsable, jeu responsable. Qu'est-ce que le jeu responsable, tout ça? Puis tous les grands chercheurs très subventionnés, on pense à Robert Ladouceur au Québec, l'homme de 4 millions, dans le fond ils participent vraiment à réfléchir à cette notion-là, qui est quand même en soi très intéressante, Et justement, Magali Brodeur, qui a écrit Vice, qui va publier bientôt son livre, elle a fait son doctorat présentement en éthique publique sur la question de la responsabilité. Comment penser cette question de responsabilité en regard de l'histoire des jeux? Puis c'est vraiment... Enfin, je pense que ça va continuer très loin. Ouais. Dans le fond, votre question, c'est est-ce que l'Auto-Québec, c'est un bon citoyen corporatif?
Ben, je m'interroge sur la sincérité de son...
Mm-hmm.
De créer des joies
c'est une question qui est très difficile à comprendre. Je ne suis pas la firme Samson, Belair, Deloitte et Touche, mais je pense dans le fond qu'il y a des beaux mécanismes pour critiquer ce que fait l'Auto-Québec. En fait, ce qui est très intéressant, et quand on compare ça à d'autres pays, c'est que notre héritage protestant, on peut dire, notre loi. On est très critique au Québec, puis au Canada, puis aux États-Unis. Dans le fond, en Amérique, c'est très, très, très critique face à nos sociétés d'État qui exploitent les jeux. Il n'y aura pas ça, par exemple, en France. Moi, j'ai été scandalisé, je peux dire, par exemple, la position de la Française des jeux. Quand on s'en va dans les colloques, là-bas, sont encore dans la sensibilisation que les jeux compulsifs, c'est grave, ça touche à... Ils sont encore dans... Parce qu'en France, ils sont convaincus que le jeu compulsif, les joueurs compulsifs, c'est de leur faute, qui se débrouillent avec leurs problèmes, tout ça. Fait que le Canada, on n'est pas là du tout. Ils gagnent des prix à l'international pour leur responsabilité sociale, tout ça. Puis, ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'antécédents sur le rôle des États, justement, dans ce jeu-là. Fait qu'ils avancent un peu à tâtons, en sachant pas vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment aider la population. Fait que ça, c'est vraiment particulier. C'est facile, je pense, de s'asseoir puis de dire « OK, ça, ils font pas ça de correct », mais il n'y a pas de précédent, puis le Québec s'impose quand même en leader en matière de responsabilité. Moi, personnellement, je fais confiance à l'État, que je pourrais pas répondre, honnêtement. Je pourrais pas. Mais bon, je pense que. C'est ça. Je vais rester évasif en utilisant un langage de bois. Je vais utiliser mon miroir pour répondre à votre question. À quelle question?
Quand tu les rencontrais, mm-hmm. Tu leur demandais, j'imagine, pour
mm-hmm. En général, ils répondaient pour le rêve. Ça, c'est systématique. Tout le monde me répond ça à la base. Puis après ça ils développent. Là. Mais chacun, c'est sûr que si on se heurte, dans le fond, à ce que me disent les personnes, ben y a pas mon sujet a aucun intérêt là. Si j'étais juste concentré à... Puis en fait, c'est ça, dans le fond, la différence entre ce que j'ai fait et ce que les autres ont fait, c'est que moi, j'ai utilisé un style d'entrevue qui est très ouvert. Tu sais, moi, j'avais pas une grille d'entrevue, puis ça achale bien gros le monde, là, quand je leur dis que j'ai pas de grille d'entrevue. Là, moi, j'avais une... C'est très ouvert, puis j'arrive, puis j'ai discuté. Moi, j'ai osé parler avec les gens. Puis si on reste avec une grille fermée, ben on n'obtient rien. Déjà, on obtient les fameuses catégories des motivations des joueurs. Je joue pour gagner, je joue pour si. Puis ça, c'est pas ces motivations-là. Dans le fond, je les remets vraiment en question avec le style très ouvert de dire, regardez, quand on discute avec les gens, ils ne s'en vont pas du tout dans cette direction-là. Ils s'en vont plutôt dans la direction de la confiance, de la relation, tout ça. Fait que c'est ça, dans le fond, je pense qui est intéressant dans le discours des joueurs. Ça, je sais pas. J'ai jamais...
Non, parce que tu disais qu'il y avait 4
millions. C'est sûr qu'au Québec, étant donné l'histoire particulière et notre proximité avec la région catholique, c'est très relié, là, mais au niveau de la statistique, qui joue, c'est quoi le pourcentage, je ne sais pas, parce que je consulte tout le temps juste le Québec. C'est vrai que je n'ai pas fait de la comparaison entre les provinces. Ça aurait été hyper intéressant de voir comment chaque province, dans le fond, vive leur jeu, surtout... Mais quand j'ai commencé ma thèse, je ne me suis pas intéressé à l'aspect historique tout seul, parce que je suis un ethnologue. J'ai appris l'aspect historique plus tard. Puis là, c'est quand on voit l'aspect historique, on fait « OK, ça aurait vraiment été intéressant, une comparaison entre les provinces. » Malheureusement, le milieu de la recherche, comment qui est fait, ça ne favorise pas du tout les échanges entre les provinces actuellement. C'est vraiment l'Alberta, son institut. Ici, c'est juste des centres de recherche cognitivo-comportementalistes. Fait qu'on est un peu extérieur, on joue. La structure des recherches, comment c'est fait au Québec, ça favorise. On n'est pas rendu là encore. Là, même s'il y a plusieurs chercheurs, là, ça va prendre encore plusieurs années avant qu'on fasse tout ça. Là. Oui, mais c'est ça, mais c'est quand même, ça c'est vraiment le type de choses qui serait intéressante. Mais présentement, ce qui intéresse les gens, c'est ce qui intéresse les chercheurs, c'est le jeu compulsif et ce n'est que ça. C'est ça. Je pense qu'on commence un peu à avoir des préoccupations pour le comportement de jeu, tout ça. Mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, même si le Centre de documentation de l'Auto-Québec a une bibliothèque complète avec juste des références sur le jeu. Ça, c'est pas encore fait. Étrangement. Oui, exactement. Merci beaucoup.